Armand Sylvestre, Super Flumina. J'ai gardé certaines habitudes dominicales de mon enfance, et c'est comme malgré moi que tous les 8 jours, un accès de paresse qu'aucune fatigue n'excuse, me pousse vers quelques promenades sans but, vers quelques flâneries à l'aventure, dans la campagne où meurt le tintement des cloches lointaines, à l'heure où les derniers fidèles franchissent les porches des églises avec une fade odeur d'encens dans leurs habits. Ce sont mes vêpres que je dis ainsi en pleine nature, égrenant sur ma route le chapelet des souvenirs, fervent de tous les cultes oubliés, lévite de toutes les religions méprisées, suprême croyant de toutes les croyances déchues. Ainsi, il y a 2 jours, m'en allais-je le long du fleuve, qu'un vent de bise ridait, sur une rive à peu près déserte, suivant le quai dont la pierre limée par les cordes des halages se dentelait sous l'usure dans un de ces paysages de banlieue que Raffaelli excède si bien à décrire et dont le ciel est comme une page grise sur laquelle les maigres silhouettes des arbres dépouillés semblent des griffonnages d'enfants. De toutes les choses, l'eau est peut-être celle qui proteste le plus tard contre les mélancoliques aspects de l'hiver. Elle garde jusqu'aux grandes averses des transparences qui leurrent et des frissons de lumière qui passent à sa surface comme les derniers éclairs d'épée d'une bataille. Elle demeure l'image de la vie, au moins jusqu'aux gelées qui la figent, tandis que partout règne la grande immobilité de la mort. Il faisait un grand calme sur le chemin où je n'entendais guère que le bruit de mes propres pas, quand une rumeur s'y mêla, une rumeur de torrent qui grondait au-dessous de moi, un glapissement humide et sourd, quelque chose de sinistre qui mêlait une note d'horreur à cette mélancolie. Je m'arrêtai, je regardais, et trouvai que j'étais arrivé, sans y prendre garde, jusqu'à la gueule débordante d'un égout, là où la grande ville déverse son opulent trésor d'ordures, infectant au loin la rivière et portant, bien loin dans les campagnes, le relent de ses odeurs malsaines, la fétide haleine de tout ce qu'elle vomit. Et comme toutes nos pensées ne sont que les impressions réfléchies qui nous viennent du dehors et se font intellectuelles dans notre esprit, le haut de cœur qui me monta devant ce spectacle souleva en moi comme un océan de dégoût qui y dormait, et que toutes les hontes auxquelles nous assistons depuis quelques jours y avaient amassé. De l'image matérielle qui m'avait fait détourner les yeux, une vision morale se dégagea, celle de l'immonde société qui, pareille à ces eaux croupies et déshonorées, nous jette jusqu'au visage ses impurs bouillonnements et l'ignoble parfum de ses vices. Tout ce monde horrible qu'un procès, celui-même de notre état social, nous révèle, occupant toute l'échelle des classes depuis ce qui devrait être l'honneur à jamais respecté jusqu'au devoir inexorablement subi, toute cette canaille remuée comme une mare putride où tombe une pierre et qui grouille avec des éclats de rire comme grisée de sa propre infection, tous ces types révoltants de cynisme qu'une cause insignifiante en apparence fait surgir, tout cela passe dans mon cerveau avec les détritus, les trognons, les immondices que l'égout roule à mes pieds. Pas un cri d'honneur dans cette musique de mensonge, pas une révolte de la conscience dans cette clameur de coquins se jetant l'ignominie à la face des uns des autres. Pas une foi qui surgisse de ce désarroi de toutes les confiances, pas une foi dans un homme dont on ose dire « Celui-là ne peut pas être soupçonné. Magistrat, ministre, ce qui est la loi, ce qui est la force, tout est confondu dans le scepticisme gouailleur de la foule, qui sait bien qu'on la trompe et qui préfère s'en amuser que s'en indigner. » Pas une virilité qui rejame dans cet abaissement de tous les principes, dans cette jetée au vent de tous les respects. Des accusés, encore sous la menace des peines, blaguent leurs juges dans les cabarets au grand plaisir de la galerie. Les mains se tendent vers une vieille proxénète et son infâme amant, relâchés sans doute parce que les prisons aussi ont quelquefois besoin d'être assainies. Il ne se trouve personne pour cracher au nez de ces ignobles drôles, pour les chasser comme on balaie les ruisseaux. Pas un soulier qui se rue au derrière de cette pourriture vivante. Ah, nous ne sommes pas difficiles sur le choix de notre compagnie. J'entends des gens dire qu'il en a toujours été ainsi. Ce n'est pas vrai. Cette promiscuité de tous les appétits fraternisant dans la même honte lucrative, cette démocratie qui unit dans la malpropreté d'une immense étreinte toutes les mains sales, celles qui descendent et celles qui montent pour se joindre et puiser dans le même sac d'écu, sont d'inventions très contemporaines, et bien ce qu'on est convenu d'appeler les signes des temps. Ce n'est pas la première fois que de pareilles éclipses du sens moral sont signalées dans notre astronomie historique. La seconde moitié du siècle dernier ne présentait pas à son début un spectacle beaucoup plus ragoûtant. Il a fallu beaucoup de sang pour laver cette boue. Mais en reste-t-il encore assez pour nettoyer notre fange? Oh, l'on sait rien, et nous sommes certainement descendus plus bas qu'alors, parce que la virilité des races s'épuise à ces rouges métamorphoses. Heureux ceux qui ont vécu dans les temps meilleurs et mieux épris de tout ce qui fait la dignité de l'âme humaine. Parmi nous, ceux-là sont les sages, qui volontiers tournent leurs yeux vers le passé et ne veulent vivre que de la mémoire des âges où fleurissait l'idéal. Et, pensant ainsi, je remontais de quelques pas la rive où s'était arrêtée ma promenade, et le fleuve m'a reparu, plus haut dans son cours, non plus souillé comme encombré de ruines, mais limpide et emportant avec lui une poussière fluide d'argent. Sur cette nappe frissonnante, le couchant étendait çà et là de grandes opacités fulgurantes comme des lambeaux de pourpre immobiles dans la vibration du vent. Une éclaircie s'était faite à l'horizon dans le ciel d'hiver et le soleil, sans rayon, rouge comme une sorbe, semblait un disque posé sur une large lame de cuivre en équilibre comme on voit faire les batteleurs forains. Ce qui fut les verdures estivales, frangées de rouille par l'automne, n'est plus qu'un enchevêtrement de petites branches noires se découpant sur ce fond d'or. La vision mauvaise avait déjà disparu pour moi, celle du cloaque où mes regards étaient tombés, celle du gouffre où avait plongé mon esprit. Que m'importe après tout cette fange qui descend dans le fleuve ? Le fleuve coule et la mer l'attend. Que me fait la honte que envahit la vie contemporaine? Le temps marche et le néant est au bout. La nature est là, impassible et douce, pour nous faire perdre patience. L'amour est là, vibrant et cruel, pour ne pas souffrir que nous avions d'autres tourments que les siens. Admirons les splendeurs des choses et aimons, nous qui sommes demeurés fidèles à l'idéal de poésie et de tendresse qui berça si longtemps les douleurs de l'humanité. Plus haut que les ruisseaux débordants, plus haut que cette mer de boue qui peut s'étendre mais se saurait s'élever, car les océans bleus ont seuls des vagues audacieuses, plane l'immortel soleil de nos espérances et l'immortel objet de nos désirs. Plus haut, sur un autel tout embrumé de l'encens de mes vœux, sont posés les pieds divins et blancs, ma bien-aimée aux noirs cheveux, grand lys debout dans la solitude, jalouse de mes rêves, consolation du terrestre exil, toi qui, d'un sourire, me fermes l'horizon et qui, d'un baiser, m'ouvres l'infini.